Merci Jean-Roger Billon. Bonsoir à tous. Yacouba Ouédraogo, effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits marquants en sport. Eh bien, nos consultants sont en ligne, comme il a dit, pour vous éclairer. Eh bien, j'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
Élisée Nkwatine est en direct depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci. Amine Birouk nous rejoint depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et bien évidemment, nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence dans Sporama de ce lundi 26 juillet 2024. Les dates connues de la prochaine CAN Maroc 2025. L'Euro qui se poursuit en Allemagne et la Copa América qui a démarré ici aux États-Unis la semaine dernière. Et bien évidemment, on va évoquer la difficulté pour les sélections qualifiées pour la compétition de football au JO d'avoir les joueurs et les bons à temps. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'annonce a été faite par la Confédération africaine de football, initialement programmée au Maroc à l'été 2025 pour ne pas priver justement de nombreux clubs européens de leurs internationaux africains en janvier-février. Eh bien, la 35e édition de la CAN se serait alors télescopée avec le mondial des clubs à 32 équipes que la FIFA organise ici aux États-Unis une fois de plus du 15 juin au 13 juillet 2025. Amine Birouk, c'est quoi les motifs officiels invoqués par la CAF pour nous servir ce calendrier?
Le motif est très simple, ne pas, je dirais, subir les aléas d'une Coupe du Monde des clubs qui sera un super tournoi à 32 équipes et qui occupera une bonne partie de l'été 2025. Ne pas oublier que c'est une année de Coupe du Monde, une saison de Coupe du Monde qui s'annonce par la suite, avec la possibilité d'avoir des joueurs qui seraient sur la brèche et qui n'auraient pas de vacances, parce qu'il ne faut pas oublier que les championnats européens vont démarrer très tôt à l'intersaison 2025-2026, et ce problème va se poser. Donc on a coupé la poire en deux, et on va bien évidemment profiter de la fête de fin d'année, la trêve de fête d'année, pour pouvoir organiser cette CAN de manière originale, à cheval sur deux années, puisque c'est une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa création en 1957. Mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui la CAF, c'est le maillon faible des confédérations affiliées à la FIFA, parce qu'elle subit la programmation de la FIFA. Est-ce que Gianni Infantino et l'instance fêtière du football mondial allaient imposer à l'UEFA de changer ses dates? Est-ce qu'elle aurait fait la même chose avec la CONMEBOL ou la CONCACAF? J'ai de sérieux doutes concernant, je dirais, la position actuelle de la CAF, qui est une position de faiblesse.
Alors, Élisée, Amine l'évoquait, la position actuelle de la CAF, qui est une position de faiblesse. Comment vous analysez ce calendrier de la prochaine CAN?
Bon, on peut s'exprimer ainsi, mais comme on mettra devant si, on ne connaîtra jamais la réponse. C'est ce qu'il s'agit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que la FIFA pourra se comporter ainsi devant l'UEFA ou encore la CONMEBOL? Beaucoup ont douté de cela. Aujourd'hui, on reproche à la CAF ses manques d'autorité. Et encore, on le dit, puisque Issa Hayatou, avant de partir, l'a déjà martelé, et Ahmad qui l'a succédé, on se rappelle de cette élection dans la grande salle de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était quand même... on n'imaginait pas, mais aujourd'hui, on a senti que ce que voulait Infantino, c'était bien sûr de gérer à sa manière cette Confédération africaine de football. Beaucoup se fustigent cela. Dommage qu'on n'aura pas une fois encore la CAN à une date précise. Ce qu'on fustige aussi, c'est que la CAN peine à avoir une date fixe, comme on le voit avec l'Euro ou la Copa América ou la Coupe d'Asie des Nations. Même la Coupe du Monde a une date fixe, a une période fixe. Je ne parlerai pas de date, mais une période fixe. Mais la CAN peine à avoir une période fixe. Tantôt, c'est en janvier, ce qu'on nous a habitués. Mais après, ça passe en été. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette CAF peine à avoir la même mise sur sa compétition. Et c'est vraiment déplorable.
Alors, Amdine Sy, la dernière CAN en Côte d'Ivoire a eu lieu en janvier-février. Est-ce qu'on est en train de se retourner vers cette période pour les prochaines CAN? Avec toutes les difficultés, non, bien sûr, qu'on connaît.
En fait, le problème, je pense que Élisée l'a dit, on ne connaît même plus la période où doit se dérouler la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai eu la chance de couvrir 10 Coupes d'Afrique des Nations. Sur les 10 Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes, les 9 ont été durant presque l'hiver, en mi-janvier, mi-février. C'était ça, quand même, les organisations de la CAN. Mais en 2019, lorsque l'Égypte, au pied levé, a su remplacer quand même la côte de le Cameroun qui n'était pas prêt. On l'a fait en été et c'était pas mal. Et moi, je trouvais même très intéressant d'organiser les CAN en hiver, si c'est pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme ça, parce que il fait pas froid, il fait chaud durant cette période. Et dans les pays du Nord, dans les pays maghrébins, on peut l'organiser durant l'été. Parce que en 2004, en Tunisie, c'était durant l'hiver, mais c'était une CAN extrêmement difficile. Très froid, il faisait très froid au niveau de la Tunisie. En 2006, au niveau de l'Égypte, c'était la même chose. À Alexandrie, au Caire, il faisait très froid. Mais lorsque la Confédération africaine décide de changer, moi, je ne trouve pas de problème. Mais je refuse le dictat. Parce que pour ce changement, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. La CAF s'est pliée aux exigences de la FIFA. C'est ça. Ils l'ont fait pour que la FIFA puisse organiser la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. Ce qui n'est pas normal. C'était le combat de Issa et tout. Lorsqu'il était là, la Coupe d'Afrique se tenait dans les périodes où la CAF le voulait. Maintenant, depuis qu'il est parti, on ne sait plus à quelle date se vouer. Ce n'est pas normal. On est une confédération très importante. Yann Infantino, lorsqu'il a besoin d'être élu, il a fait le tour de l'Afrique, il a rencontré les présidents africains pour que les pays africains votent à sa faveur. Maintenant, il est président, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et on est comme des bénévoles, on le suit. Hein? Pourquoi ce cadre? Regarde. 3 compétitions, les joueurs africains vont jouer. 3 compétitions en espace presque d'une année. Ils vont jouer la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des clubs et la Coupe du Monde, c'est anormal. Les fêtes des fans, vous l'avez dit tantôt.
Amdine Sy, je pense qu'on a bien compris votre coup de gueule. Hein. Alors, Jules Valentin Goué, finalement, la période de l'organisation de la CAN varie donc en fonction des considérations climatiques, mais pas que. Est-ce que cette CAN-là pourra continuer à vaciller de la sorte?
Non, mais pour cela, il faut être clair. C'est la Coupe du Monde des clubs qui était une fixation pour le président Infantino, vu son apport sur le plan financier qui a tout faussé. Donc il a fallu donc jouer les contorsionnistes dans cette affaire. S'il y avait d'abord un grand danger de saturation des organismes des joueurs avec la succession de toutes ces compétitions en quelques mois pendant la période estivale. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a mis les filles pendant cette période où, ma foi, il n'y a pas d'interférence avec le football des hommes dans les autres continents. Donc les filles pourront quand même consoler le Maroc pour que la saison estivale ait quand même une grande compétition parce que le Maroc se sent lésé à ce niveau-là aussi. Bon, mais maintenant, pour le reste, pour que la pilule passe, il y a cette Coupe du Monde des clubs où, curieusement, les clubs qui sont appelés en tête de ces clubs, il y a le président de la CAF qui a sa propre équipe, Mamelodi Sundowns, qui y est présente et il y aura beaucoup de dividendes. Donc, on peut pas dire que c'est totalement désintéressé, qu'on a été surpris. Tout cela ressemble je parlerai pas d'un complot, mais ressemble quand même à une entente cordiale. Alors, je dis l'Afrique dans tout cela, et mes prédécesseurs ont tout dit, mais il y avait plus de considération pour l'Afrique, et maintenant, on sent qu'il y a plus de considération pour les avantages et pas de tout le monde.
La Coupe d'Afrique des femmes aura lieu, elle, du 5 au 26 juillet 2025 et la CAN 2027 doit se dérouler dans 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. L'Euro 2024 se poursuit et l'Allemagne finit en tête de son groupe A avec 7 points, 2 de plus que la Suisse qualifiée aussi pour les huitièmes de finale. Amine, ce après avoir évité de justesse la défaite face à la Suisse lors de la troisième journée, un but partout à l'arrivée.
Oui, leader sur le fil, puisque le but de Füllkrug est arrivé à la 92e minute. Et on a vu une Allemagne qui est allée, qui a démarré très fort la compétition contre l'Écosse, mais qui a semblé peiner lors de ces deux derniers matchs, que ce soit face à l'Hongrie où elle a gagné de justesse 2-0, et surtout face à une équipe suisse très bien organisée. On a vu une Allemagne qui a manqué d'imagination, qui a manqué surtout de justesse dans le dernier geste. Et la question qu'on se pose, pourquoi s'entêter à titulariser par exemple un Kai Havertz alors que ce n'est pas un avant-centre de métier, et ne pas utiliser la puissance et la présence dans la surface de réparation de Füllkrug, qui à chacune de ses rentrées était très positive pour la Mannschaft. Preuve en est les buts qu'il avait marqués lors du match d'ouverture, et ce but égalisateur tardif qui permet à l'Allemagne d'éviter une déconvenue, de se retrouver à la deuxième place dans la partie de tableau où devraient figurer des équipes aussi puissantes que la France ou l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, nous avons été surpris par la qualité de ce football suisse. C'est une équipe suisse avec beaucoup de joueurs qui étaient motivés. La plupart évoluent en Bundesliga, donc ils avaient certainement beaucoup à prouver à leurs employeurs. La Suisse continue et l'Allemagne va bien évidemment passer aux choses sérieuses avec les huitièmes de finale. C'est la compétition du chaos. Le vainqueur va continuer, le perdant va quitter la compétition. Et ce n'est pas chose aisée parce que les Allemands devraient retrouver en quart de finale, si la logique est respectée, une Espagne de plus en plus impressionnante.
Et justement, deux matchs en cours présentement dans la poule B, déjà qualifiés. Cette Espagne la joue face à l'Albanie, à Düsseldorf. Et la Croatie et l'Italie s'affrontent au stade de Leipzig. Alors, Amdine, la Croatie de Luka Modric est en grand danger.
Oui, la Croatie est en grand danger parce qu'il faut jouer la qualification face à une équipe italienne qui n'est pas encore qualifiée, hein, puisque les Italiens ont certes gagné le premier match, mais ils ont été battus par l'Espagne. Donc, c'est un match difficile qui se joue en ce moment. Pour le moment, c'est 0-0 partout, mais la qualification, que ce soit de l'Italie ou de la Croatie, se jouera sur ce match. Mais force est de reconnaître que la Croatie est en très grand danger. La Croatie qui nous avait habitués à aller au moins jusqu'en demi-finale lorsqu'il s'agit des compétitions comme l'Euro et la Coupe du Monde. Mais pour cette année, ils feront tout pour peut-être essayer d'accrocher même la troisième place pour être parmi les meilleurs troisièmes, puisque ce sera très difficile face à l'Italie. Le match se joue en ce moment même, Yacouba.
Justement, Jules, dans ce groupe B, par contre, l'Espagne, elle, s'en tire à bon compte.
Oui, bien sûr. L'Espagne s'en tire à bon compte parce que l'Espagne est venue à point avec un effectif très jeune, un effectif de jeunes qui ont faim et surtout qui n'ont pas de pression. Ils jouent comme ils l'entendent à leur vitesse et avec une facilité déconcertante, et en plus ils sont efficaces, entourés de quelques vieux grognards, mais donc ils sont très efficaces. Mais seulement, nous sommes habitués dans cette grande compétition à voir certaines équipes démarrer très fort ainsi et être les victimes des équipes très réalistes qui viendront juste pour les contrer par la suite. Le Brésil nous a donné cet exemple pendant au moins 25 ans ou de 1970 à 1994, ils ne gagnaient pas mais étaient toujours favoris et la meilleure équipe de la première partie de la compétition. Donc, il faut attendre pour voir.
Dénouement attendu demain dans les poules C et D. Alors, Élysée, Angleterre, Slovénie et Danemark servis dans la poule C. C'est aussi un groupe serré.
Un groupe serré, surtout après le nul hein, entre le Danemark et l'Angleterre. L'Angleterre très attendue, considérée par la majorité des spécialistes comme l'équipe favorite hein, pour remporter cette Euro, cette coupe d'Europe des Nations. En tout cas, suite à ce match, il y a eu beaucoup de critiques hein, où le sélectionneur Gary Stargard a été vivement critiqué. On espère que le match de demain, il va quand même changer quelque chose, surtout au milieu de terrain où Alessandro qui est un latéral droit se retrouve aujourd'hui au milieu de terrain où il y a pratiquement 2 minutes de jeu à la ligne offensive. Hein, je vais nommer Jude Bellingham et bien sûr Phil Foden, dont vous imaginez. Donc il y a des choses à revoir puisque l'Angleterre n'a pas encore séduit. Et comme l'a dit Jules, il faudra économiser ses énergies puisque là, quand ça va commencer par les matchs à élimination directe, tout ira très rapidement puisque ce sont les plus réalistes qui vont poursuivre la compétition. Et pour l'instant, pour l'info, c'est que l'Espagne vient d'ouvrir le score.
Merci beaucoup, Élisée. Alors, Amine, il y a un match qui est attendu demain, la France face à la Pologne. Cette France-là qui avait 4 points, mais qui jusqu'ici n'a pas marqué d'elle-même.
Elle n'a pas marqué d'elle-même. Et puis les tributaires du nez de Kylian Mbappé, un nez cassé quasiment ou fracturé lors du match contre l'Autriche. On a vu que contre les Pays-Bas, une équipe solide, mais sans beaucoup de génie, qui a peiné et pêché à la finition avec 2 ratés énormes d'Antoine Griezmann. En l'absence de Kylian Mbappé, cette équipe a eu du mal à produire du jeu, surtout à se montrer décisive dans la zone de vérité. On verra si face à une équipe polonaise éliminée et décevante, les Français ne vont pas retrouver quelques couleurs avec le retour de Kylian Mbappé et avec son masque. Je dirais aujourd'hui, beaucoup de gens louent la capacité de Didier Deschamps à reproduire de bonnes performances, des performances solides dans les compétitions qu'il a disputées à la tête des Bleus depuis l'Euro ou la Coupe du Monde 2014 exactement. Mais on a toujours l'impression qu'il manque un petit zeste de génie dans le jeu de cette équipe. Et surtout, sans son élément le plus décisif, la France a montré ses limites. D'ailleurs, on pourrait peut-être intituler le jeu de l'équipe de France « Non Mbappé, non parti ».
Justement, Amdine, vous qui riez. Alors, « Non Mbappé, non parti », est-ce que c'est le constat que vous faites également?
Oui, c'est vrai que Mbappé est très important dans cette équipe française. La preuve, on a vu lors de ce match contre les Pays-Bas, on a vu les Français dominés par moments, se créer beaucoup d'occasions, mais il n'a pas eu un tueur. Griezmann est un bon joueur, Griezmann est un buteur, mais je pense que sur ce domaine, Mbappé a beaucoup, beaucoup évolué face au but adverse. Il est devenu très adroit. Je pense que Mbappé est devenu même 50% de cette équipe française. La preuve, il a montré lors de la dernière finale de la Coupe du Monde. À lui seul, il a permis la France de revenir à la hauteur de l'Argentine pour aller jusqu'en série de tir au but. En tout cas, tout dépendra du nez de Mbappé, comme l'a si bien dit mon ami et confrère Amine Birou.
Alors, justement, Élisée, on le sait, cette équipe de France regorge de beaucoup de qualités. Comment comprendre que le jeu repose essentiellement sur les épaules et le nez maintenant de Kylian Mbappé?
Et tout simplement, puisque l'équipe joue à l'image de Didier Deschamps, le joueur qu'il fut n'est pas si bon en matière de technique, n'est pas un technicien aujourd'hui. C'est vrai que aucun sélectionneur n'a réalisé ce que Didier Deschamps a fait depuis les 10 dernières années. Il faut l'avouer. 2 finales, une finale à la Coupe du Monde, une finale à l'Euro. Il a remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. C'est vrai que c'est énorme, mais depuis un certain moment, cette équipe manque d'animation offensive, il faut le dire, puisque là, quand on prend cette sélection, elle a une solidité défensive incroyable, et on voit que individuellement et cette sélection a de très bons joueurs, mais au niveau de l'animation offensive, quelque chose ne va pas, et on l'a vu, il a changé son schéma tactique contre les Pays-Bas, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il reviendra encore, puisque on ne sait pas si Kylian Mbappé va jouer, est-ce qu'il reviendra encore à ce schéma de départ, on ne sait pas, mais une chose est sûre, ça manque quelque chose à Didier Deschamps. Est-ce la fin de son aventure? On ne sait pas, puisque là, Didier Deschamps peine à trouver cette magie. Et comment je vais l'expliquer?
C'est bien la magie.
Bon, ouais, voilà, il peine à le trouver. Et aujourd'hui, l'équipe de France est totalement en difficulté.
Autre compétition, la Copa América qui se joue ici aux États-Unis à Miami devant plusieurs milliers de supporters. L'Uruguay a dominé le Panama 3-1. Amdine Sy, l'Uruguay confirme quand même son statut de favori dans cette compétition.
Ah oui, l'Uruguay l'a montré, mais j'ai regardé le match, mais ce n'est pas si facile que ça, puisque après presque 80 minutes de jeu, l'Uruguay ne menait que par 1-0. Et en ce moment de la partie, ce sont les joueurs panaméens qui avaient quand même le monopole du cuir, mais comme les joueurs uruguayens sont très expérimentés, ils ont réussi quand même à marquer deux buts vers la fin du match. Je dirais même que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre, mais l'essentiel c'était de gagner et les Uruguayens l'ont fait. C'est ça aussi une bonne équipe, c'est ça aussi une équipe expérimentée, puisqu'il faut savoir négocier les temps forts et les temps faibles, et les autres Uruguayens l'ont bien fait. Et en ce moment, ils équipent quand même la première place de ce groupe poussé avec 3 points, à égalité de points avec les Américains et les États-Unis qui ont aussi battu, qui ont battu par 3-1 leurs adversaires, Élysée.
Yacouba Pito, bien évidemment. Vous retrouverez Élysée une prochaine fois.
Ah ouais, Élysée,
c'est bon. Non, il n'y a pas de souci, Abdine, ça se comprend. Alors, justement, on a vu ce match aussi, hein, Argentine-Canada, je l'ai suivi particulièrement. Alors, on a vu cette équipe de l'Argentine peiner, même si elle a gagné 2-0. Finalement, quel jugement vous faites du niveau de la Copa América? Jules Valentin Gouy.
Oui, mais l'Argentine, on l'a tous vu jouer, mais un peu à la manière de l'Argentine toujours. C'est-à-dire une équipe qui sait conserver le ballon et qui compte beaucoup sur les coups de génie de Léo Messi, qui en a eu 2 ou 3 pour faire la différence, alors que le Canada présentait un jeu très généreux. L'Argentine commence toujours ainsi au ralenti, et au fur et à mesure que la compétition avance, son rythme monte. Donc je crois que c'est aussi un prétendant sérieux au titre.
Alors, Amine Birouk, on l'a entendu récemment, hein, des comparaisons entre la Copa América et l'Euro, notamment de la part de Kylian Mbappé, réponse de Messi, et on a entendu aussi le coach de l'Argentine dit que s'il continuait comme ça, la Copa América serait en dessous de l'Euro. Vous, quand vous comparez les deux compétitions, quel est votre regard là-dessus?
En termes d'engouement, en termes de passion, il n'y a pas photo. En termes de qualité technique, aujourd'hui, je pense que l'Euro est au-dessus de la Copa América, d'autant plus que c'est une compétition qui regroupe cette année les deux parties de, je dirais, du continent nord-américain, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une différence de niveau. Maintenant, on verra sur cette compétition. Peut-être que je vais me tromper parce que pour l'instant, l'Euro n'est pas très emballant. Il y a des rencontres intéressantes par séquence, mais on n'a pas vu encore le match référence. On attend aussi de découvrir cette Copa América. Mais c'est vrai que par rapport à nous en Afrique, il y a aussi la question du décalage horaire qui ne nous permet pas de nous intéresser davantage à cette compétition. C'est souvent la nuit que se déroulent les matchs. Donc, absolument, il va falloir peut-être attendre les quarts de finale de la compétition pour être un peu plus avisé sur ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que le dénominateur commun, ce sera l'Euro des joueurs fatigués et c'est aussi la Copa América des joueurs fatigués. La moyenne des joueurs qui ont disputé les matchs de haut niveau, elle est de 60 matchs par joueur. Donc c'est énorme. Ils arrivent sur les rotules et ne sont pas capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'où peut-être un mal pour un bien par rapport à la CAN qui aura lieu en décembre-janvier 2025. Les joueurs arriveront frais et donneront peut-être un meilleur rendement dans un climat qui sera moins hostile que celui des États-Unis actuellement, ou encore celui qu'on a vécu en Côte d'Ivoire cette année lors de la CAN 2023.
Bien évidemment, Amine Birouk, je reste avec vous. Je le disais en titre, hein, ce n'est pas toujours évident pour les équipes qualifiées pour les JO de disposer de leurs effectifs souhaités pour la compétition de football. Cette année, le Maroc, l'Égypte, la Guinée et le Mali sont concernés pour les Jeux Olympiques, pour ce qui est du football. On revient avec vous. Finalement, c'est un dilemme, cette question, très rapidement.
Le dilemme, d'autant plus que la FIFA ne favorise pas les Jeux Olympiques. Les deux compétitions sont en concurrence et la FIFA a déjà pénalisé les JO en décrétant que ce serait une compétition pour les moins de 23 ans. C'est une compétition à 18 joueurs et ce n'est pas dans les dates FIFA. Donc il faut des négociations de gré à gré entre les fédérations et les clubs européens concernés qui démarrent la préparation d'avant-saison et qui n'ont pas envie forcément de voir leurs meilleurs joueurs quitter la compétition, quitter les stages de préparation préparation. Donc aujourd'hui, les fédérations africaines, en l'occurrence les quatre qualifiées pour les JO, sont en train de négocier et ce n'est pas sûr d'avoir les meilleurs joueurs pour pouvoir défendre leurs chances de médaille.
Merci beaucoup Amine Birouk depuis Casablanca. Merci à Jules Valentin Ngoué, à Amdine Sy et bien évidemment à Élisée Nkpatine. Merci à Michel Joseph qui a réalisé cette émission. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.